Chapitre 32. Henri était né dans une famille ruinée dont il avait vu toute sa jeunesse la déliquescence s'aggraver. Il n'avait assisté qu'à des débâcles. Maintenant qu'il s'apprêtait à remporter sur le destin une victoire définitive, pas question de se laisser arrêter par un raté de fonctionnaire. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agissait. Il allait le renvoyer la niche, le petit inspecteur pour qui se prenait-il d'abord ? Une large part d'autosuggestion se dissimulait derrière cette assurance affichée. Henri avait besoin de croire en son succès et n'imaginait pas une seconde que, dans ces temps de crise par définition favorable aux grandes fortunes, il ne pût tirer avantageusement son épingle du jeu. Toute la guerre le lui avait prouvé, il ne craignait pas l'adversité, encore que, cette fois, l'atmosphère fût un peu différente. Ce n'était pas la nature des obstacles qui l'inquiétait, mais leur succession. Sur la réputation attachée au nom de Péricourt et d'Aulnay-Pradelle, l'administration ne s'était pas jusqu'alors montrée trop regardante. Mais voici que ce minable du ministère pondait un nouveau rapport après sa visite inopinée à Pontaville-sur-Meuse, où il était question de vol d'objets, de trafic, et d'ailleurs, avait-il droit d'inspecter sans prévenir ? Quoi qu'il en soit, l'administration cette fois s'était révélée moins conciliante. Henri avait aussitôt demandé à être reçu. Ça n'avait pas été possible. « On ne peut pas couvrir toutes ces choses, voyez-vous », lui avait-on expliqué au téléphone. Jusqu'ici, il s'agissait de petites difficultés techniques, quoique tout de même. À l'autre bout du fil, la voix était devenue plus embarrassée, plus feutrée, comme si on s'entretenait d'un secret qu'on craignait d'être entendu. Ces cercueils qui ne correspondent pas aux normes prévues au marché. « Mais je vous l'ai déjà expliqué !» tonna Henri. « Oui, je sais, une erreur à la fabrication, oui, oui, bien sûr, mais cette fois, à Pontaville-sur-Meuse, c'est pas pareil, comprenez-vous. Des dizaines de soldats enterrés sous un nom qui n'est pas le leur, c'est déjà très embarrassant, mais que disparaissent leurs valeurs personnelles. Oh là là !» s'était esclaffé Henri en riant très fort. Ah, « Vous m'accusez de dépouiller les cadavres maintenant ?» Le silence qui suivit l'impressionna. L'affaire devenait grave parce qu'il n'était pas question d'un objet, ni même de deux. On dit qu'il s'agit de tout un système, d'une organisation à l'échelle du cimetière. Le rapport est très sévère. Bon, tout cela s'est fait dans votre dos, bien sûr. Vous n'êtes pas en cause à titre personnel. Encore heureux ! Mais le cœur n'y était pas, personnel ou non, la critique pesait lourd. Il aurait tenu Dupré. Il lui aurait fait passer un sale quart d'heure. Du reste, il ne perdait rien pour attendre. Henri se souvint alors que les changements de stratégie avaient permis le succès des guerres napoléoniennes. « Vous pensez vraiment, » demanda-t-il, « que les sommes attribuées par le gouvernement permettent de sélectionner des personnels parfaitement compétents, irréprochables, qu'avec ces prix-là, on a les moyens de procéder à des recrutements sévères, de n'embaucher que des ouvriers triés sur le volet ?» En son fort intérieur, Henri savait qu'il s'était montré un peu expéditif dans les embauches, allant toujours au moins cher, mais enfin, Dupré l'avait assuré que les contremaîtres étaient sérieux, merde, et que les manœuvres seraient convenablement encadrées. Le type du ministère sembla pressé tout d'un coup, et la conversation s'était achevée sur une information noire comme un ciel d'orage. « L'administration centrale ne peut plus gérer seule ce dossier, monsieur d'Aulnay-Pradelle. Elle doit maintenant le transférer au cabinet de monsieur le ministre. » Un lâchage en bonne et due forme. Henri raccrocha violemment le téléphone et entra dans une colère noire. Il saisit une porcelaine de Chine et la fracassa sur une petite table en marqueterie. Quoi ? Il n'avait pas suffisamment arrosé tous ces gens-là pour qu'ils ouvrent le parapluie. D'un revers de bras, il chassa un vase de cristal qui se brisa contre le mur. Et s'il expliquait au ministre de quelle manière ces hauts fonctionnaires avaient profité de ses largesses, hein ? Henri reprit sa respiration. Sa fureur était proportionnelle à la gravité de la situation, parce que, à ses arguments, il n'y croyait pas lui-même. Il y avait bien eu quelques cadeaux, oui, des chambres de grand hôtel, quelques filles offertes, des repas luxueux, des boîtes de cigares, des factures payées ici et là, mais lancer des accusations de prévarication revenait à s'avouer corrupteur, autant dire se tirer une balle dans le pied. Madeleine, alertée par le bruit, entra sans frapper. « Eh bien, que t'arrive-t-il ? » Henri se retourna et la découvrit dans l'encadrement de la porte, très volumineuse, enceinte de 6 mois, mais on l'aurait dit à terme. Il la trouva laide. Oh, ça ne datait pas d'aujourd'hui. Voilà longtemps qu'elle n'éveillait plus aucun désir chez lui. La réciproque était vraie, d'ailleurs. Les fougues de Madeleine remontaient à une époque oubliée, quand elle se conduisait davantage comme une maîtresse que comme une épouse, sans cesse en demande cette fringale qu'elle avait. Tout ça était loin, et pourtant, Henri lui était plus attaché qu'hier. Pas à elle, à proprement parler, mais à la future mère du fils qu'il espérait. Un Aulnay Pradel junior qui serait fier de son nom, de sa fortune, de la propriété familiale, et qui n'aurait pas, comme lui, à batailler pour exister, mais saurait faire fructifier un héritage que son père rêvait conséquent. Madeleine pencha la tête, fronça les sourcils. C'était une qualité chez Henri. Dans les situations difficiles, il pouvait prendre une décision à la seconde. En un éclair, il passa en revue les solutions qui s'offraient et comprit que sa femme représentait sa seule planche de salut. Il adopta la mine qu'il détestait le plus, qui lui correspondait le moins, celle de l'homme dépassé par les événements. Il poussa un long soupir de découragement et s'effondra dans un fauteuil, les bras ballants. D'emblée, Madeleine se sentit partagée. Elle connaissait son mari mieux que personne et la comédie du désarroi avait peu de prise sur elle. Mais il était le père de son enfant, ils étaient liés. À quelques semaines d'accoucher, elle n'avait pas envie d'affronter de nouvelles difficultés, elle désirait la paix. Elle n'avait pas besoin d'Henri, mais un mari, à ce moment-là, lui était utile. Elle demanda ce qui se passait. « Les affaires, » répondit-il de manière évasive. C'était aussi une expression de M. Péricourt. Lorsqu'il ne voulait pas expliquer, il disait « Ce sont les affaires ». Ça voulait tout dire. C'était un mot d'homme, rien de plus pratique. Henri releva la tête, pinça les lèvres. Madeleine le trouvait toujours très beau. Comme il l'espérait, elle insista. « Eh bien, » dit-elle en s'approchant, « mais encore. » Il se résolut à un aveu coûteux, mais la fin, comme toujours, justifiait les moyens. « J'aurais besoin de ton père. Pourquoi ?» s'enquit-elle. Henri balaya l'air, ce serait trop compliqué. « Ah, je vois, » fit-elle en souriant. « Trop compliqué pour m'expliquer, mais assez simple pour me demander d'intervenir. » Henri, en homme écrasé par les difficultés, répondit par un regard qu'il savait émouvant, qu'il utilisait fréquemment pour séduire. Il lui en avait rapporté des bonnes fortunes, ce sourire-là. Si Madeleine insistait, Henri lui mentirait de nouveau parce qu'il mentait en permanence, même lorsque c'était inutile, c'était dans sa nature. Elle posa une main sur sa joue. Même quand il trichait, il était beau. Le simulacre du désarroi le rajeunissait, soulignait la finesse de ses traits. Madeleine resta pensive un instant. Elle n'avait jamais beaucoup écouté son mari, même dans les débuts. Elle ne l'avait pas choisi pour sa conversation. Mais depuis sa grossesse, ce qu'il disait flottait dans l'air comme une vapeur sans importance. Tandis qu'il jouait ce simulacre de désarroi, de bouleversement, elle l'espérait plus adroit avec ses maîtresses, elle l'observait avec une tendresse vague de celle qu'on a pour les enfants des autres. Il était beau, elle aimerait bien avoir un fils comme lui, moins menteur, mais aussi beau. Puis elle quitta la pièce sans rien dire, souriant légèrement, comme chaque fois que le bébé lui donnait des coups de pied, elle monta aussitôt à l'appartement de son père. Il était 10 heures du matin. Dès qu'il reconnut sa fille à la façon de frapper, M. Péricourt se leva, vint à sa rencontre, posa un baiser sur son front, sourit en désignant son ventre. « Ça va toujours bien ?» Madeleine fit une petite mine. « Oh, coussi coussa. « J'aimerais que tu reçoives Henri, papa, » dit-elle. « Il rencontre des difficultés. » Au seul prénom de son gendre, M. Péricourt se redressa insensiblement. « Il ne peut pas résoudre ses problèmes tout seul. Quelle difficulté d'ailleurs ?» Madeleine en savait plus qu'Henri ne le pensait, mais pas suffisamment pour éclairer son père. ce contrat avec le gouvernement encore. M. Péricourt avait répondu avec sa voix d'acier, celle qu'il prenait quand il campait sur des positions de principe. Il devenait difficile à manipuler dans ces cas-là, rigide. « Je sais que tu ne l'aimes pas, papa, tu me l'as dit. » Elle parla sans colère, se fendit même d'un sourire très doux, et comme elle ne demandait jamais rien, elle abattit tranquillement son meilleur atout. « Je te demande de le recevoir, papa. » Elle n'eut pas à poser, comme en d'autres occasions, ses mains en croix sur son ventre. Déjà, son père avait fait un signe. « Bon, d'accord, » dit-lui de monter. M. Péricourt ne fit même pas semblant de travailler lorsque son gendre frappa à la porte. Henri vit, à l'autre bout de la pièce, son beau-père trôner derrière son bureau, comme Dieu le père. La distance qui le séparait du fauteuil des visiteurs était interminable. Dans la difficulté, Henri bandait ses forces, prenait son élan. Plus l'obstacle semblait important, plus il se montrait sauvage. Il aurait tué n'importe qui. Mais ce jour-là, celui qu'il aurait aimé exécuter, il en avait besoin, et il détestait cette situation de subordination. Les deux hommes se livraient depuis qu'ils se connaissaient une guerre du mépris. M. Péricourt se contentait de saluer son gendre d'un mouvement de tête. Henri répondait par le même geste. Chacun attendait, depuis la première minute de leur première rencontre, le jour où ils prendraient l'avantage, la balle passant d'un camp à l'autre. Une fois, Henri séduisait sa fille, la fois suivante, M. Péricourt imposait un contrat de mariage. Lorsque Madeleine avait annoncé à son père qu'elle était enceinte, c'était dans l'intimité. Henri avait été privé du spectacle, mais il avait marqué là un point décisif. La situation semblait s'inverser. Les difficultés d'Henri passeraient, tandis que l'enfant de Madeleine, lui, durerait. Et cette naissance faisait obligation à M. Péricourt de lui rendre service. Celui-ci sourit vaguement, comme s'il comprenait les pensées de son gendre. « Oui ? » demanda-t-il sobrement. « Pouvez-vous intervenir auprès du ministre des Pensions ? » demanda Henri d'une voix claire. « Bah, tout à fait, c'est un ami très proche. » M. Péricourt resta pensif un court instant. « Il me doit beaucoup. » Une dette personnelle, en quelque sorte, une histoire un peu ancienne, mais enfin, du genre qui fait et défait les réputations. Bref, ce ministre, si je puis dire, est un peu à moi. Henri ne s'était pas attendu à une victoire si facile. Son diagnostic était vérifié. Au-delà de ses espérances, M. Péricourt le confirma involontairement en baissant les yeux vers son sous-main. De quoi s'agit-il ? Oh, une babiole, c'est... Ben, si c'est une babiole... le coupa M. Péricourt en relevant la tête. « Pourquoi déranger le ministre, ou moi ?» Henri adora cet instant. L'adversaire allait se débattre, tenter de le mettre en difficulté, mais serait finalement contraint de céder. Avec du temps, il aurait fait durer cette conversation délectable, mais il y avait urgence. « C'est un rapport qu'il faut enterrer, il concerne mes affaires. Il est mensonger, et bah, s'il est mensonger, que craignez-vous ? » Ce fut plus fort que lui. Henri céda à la tentation de sourire. Le vieux allait-il lutter encore longtemps ? Avait-il besoin d'un bon coup sur la tête pour se taire et passer à l'acte ? « Une histoire compliquée, » dit-il. « Et donc, je vous demande de bien vouloir intervenir auprès du ministre pour enterrer cette affaire. De mon côté, je m'engage à ce que les faits dont il est question ne se reproduisent pas. Ils sont le résultat d'un peu de négligence, rien d'autre. » M. Péricourt attendit un long moment, regardant son gendre dans les yeux, l'air de dire « Est-ce tout ?»« Ce n'est rien d'autre, » assura Henri. « Vous avez ma parole. »« Votre parole. » Henri sentit son sourire s'éteindre. Il commençait à l'emmerder, le vieux, avec ses remarques. Avait-il le choix, enfin, avec sa fille enceinte jusqu'aux yeux, risquer de ruiner son petit-fils, quelle blague ! Pradel consentit une ultime concession. « Je vous demande cela en mon nom et au nom de votre fille. Ne mêlez pas ma fille à cela, je vous en prie. » Cette fois, Henri en eut assez. « C'est pourtant exactement de cela qu'il s'agit. De ma réputation, de mes affaires et donc de votre fille et de l'avenir de votre... » M. Péricourt aurait pu lui aussi élever la voix. Il se contenta de tapoter discrètement son sous-main avec l'ongle de l'index. Cela fit un petit bruit sec, comme le rappel à l'ordre par un instituteur d'un élève dissipé. M. Péricourt se montra très calme, sa voix témoignait de sa sérénité, il ne souriait pas. « Il ne s'agit que de vous, monsieur, et de rien d'autre, » dit-il. Henri sentit une onde d'inquiétude le gagner, mais il avait beau réfléchir, il ne voyait pas comment son beau-père pourrait éviter d'intervenir. Était-il capable de lâcher sa propre fille ? « J'ai été informé de vos difficultés, peut-être même avant vous. » Ce début, pour Henri, semblait bon signe. Si Péricourt espérait l'humilier, c'est qu'il était prêt à céder. « Rien ne m'a surpris. J'ai toujours su que vous étiez une crapule, avec une particule, mais ça ne change rien. Vous êtes un homme sans scrupules, d'une totale cupidité, et je vous prédis la pire des fins. » Henri fit un geste pour se lever et partir. « Non, 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 monsieur, écoutez-moi. Je m'attendais à votre démarche. J'ai bien réfléchi et je vais vous dire comment je vois les choses. Dans quelques jours, le ministre sera saisi de votre dossier. Il prendra connaissance de tous les rapports concernant vos activités et procédera à l'annulation de tous les marchés que vous avez signés avec l'État. » Henri, moins triomphant qu'au début de l'entretien, regarda devant lui avec effarement, comme on regarde s'effondrer une maison sapée par une inondation. Cette maison, c'était la sienne, c'était sa vie. Vous avez triché sur des marchés intéressant la collectivité. Une enquête sera diligentée qui dira à quelle somme s'élève le préjudice matériel pour l'État et vous devrez rembourser sur vos biens personnels. Si vous ne disposez pas des fonds nécessaires, comme je l'ai calculé, vous serez contraint de solliciter votre épouse pour qu'elle vous aide, mais je m'y opposerai comme j'en ai juridiquement le droit. Vous devrez alors vous séparer de votre propriété familiale, vous n'en aurez d'ailleurs plus besoin, parce que le gouvernement vous déférera devant la justice et, pour se couvrir, sera tenu de se porter partie civile dans le procès que les associations d'anciens combattants et de familles ne manqueront pas de vous intenter et vous finirez en prison. » Si Henri s'était résolu à cette démarche auprès du vieux, c'est qu'il se savait en position délicate, mais ce qu'il entendait se révélait pire que tout. Les ennuis s'étaient accumulés rapidement, il n'avait pas eu le temps de réagir, et le doute lui vint. « C'est vous qui... » Une arme sous la main, il n'aurait pas attendu la réponse. « Mais non, pourquoi voulez-vous ? Vous n'avez besoin de personne pour vous mettre dans de sales draps. « Madeleine m'a demandé de vous recevoir, je vous reçois et c'est pour vous dire ceci. Ni elle, ni moi ne serons jamais concernés par vos affaires. Elle a voulu vous épouser, soit, mais vous ne l'entraînerez pas avec vous, je continuerai d'y veiller. Quant à moi, vous pouvez sombrer corps et biens, je ne lèverai pas le petit doigt. « C'est la guerre que vous voulez ?» hurla Henri. « Ne criez jamais en ma présence, monsieur. » Henri n'attendit pas à la fin de la phrase pour quitter la pièce en claquant violemment la porte derrière lui. Ce bruit allait faire vibrer la maison du haut en bas. Hélas, l'effet tomba à l'eau. Cette porte, munie d'un mécanisme pneumatique, se rabattit lentement avec des petits « ouf, ouf, ouf » saccadés. Henri était déjà au rez-de-chaussée lorsqu'elle se ferma enfin. Avec un bruit étouffé, M. Péricourt, à son bureau, n'avait pas changé de position.